Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. Alors là, j'avais envie de vous présenter les archétypes et comment cet enseignement me nourrit depuis plusieurs années. Alors ce podcast, il va faire suite au premier podcast sur le culte de la déesse mère et je l'espère qu'il vous donnera des nouvelles clés de compréhension. Cet enseignement, je l'ai reçu de Carole Empowy, une femme médecine qui a été à nos côtés en Guadeloupe durant quelques années et que j'honore et remercie pour ce précieux enseignement qui m'a donné et qui me donne encore une très belle cartographie de mon monde intérieur. Ce chemin archétypal va nous permettre d'accepter d'entrer dans un labyrinthe, le labyrinthe de nos âmes et de nos esprits. Et là, il est question d'aller jusqu'au bout des épreuves et de la connaissance de soi. C'est un peu comme rencontrer les dragons qui résident au cœur de nos territoires les plus intimes pour sortir vainqueur de l'affrontement, en donnant un sens peut-être différent à notre vécu. Alors les archétypes sont pour moi une source de sagesse inépuisable qui me guide dans la compréhension de ma construction, qui me permettent de mieux appréhender mes dualités et parfois aussi de mieux comprendre mes incohérences à l'œuvre, avec le plus de bienveillance possible. Alors les archétypes, je les ai explorés dans leur complexité et je continue, parce que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, je continue à les découvrir en moi, autour de moi, et les laisser me surprendre dans leur évolution. Et comme tout ce que j'explore, qui m'anime, me fascine, j'ai commencé à les intégrer dans mes enseignements et de les transmettre dans les cercles de deuxième année, ainsi qu'aux hommes des cercles. Alors ce que nous faisons en cercle, c'est les rencontrer, voir comment les déesses vivent en nous, comment les dieux vivent en chaque homme et comment parfois nous identifions à certains d'entre eux et comment ils nous portent et aussi comment ils peuvent nous tyranniser. Donc pour ce podcast, je vais commencer par vous présenter les 7 déesses et ensuite les 8 dieux, mais très succinctement. Et dans les prochains podcasts, je vous les présenterai individuellement avec leur ombre, leur lumière et leurs défis. Pour mieux comprendre cet enseignement, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous invite à réécouter le culte de la déesse mère qui explique comment l'avènement du patriarcat engloutit ce culte, créant ainsi une séparation à beaucoup de niveaux, donc séparation à l'intérieur de nous, séparation entre les femmes et les hommes, séparation envers la nature et séparation envers le monde qui nous entoure. Ce chemin archétypal nous invite à nous réunir et cela nécessite de nous regarder tels que nous sommes, de continuer à connaître ses blessures, ses besoins, ses zones d'ombre et tout notre potentiel créatif. Alors c'est quoi un archétype ? Pour moi, un archétype, c'est déjà un guide, une source de sagesse spirituelle qui va détenir une leçon pour nous faire grandir. Jung, il a été le premier à définir la notion d'archétype et d'inconscient collectif. Son hypothèse est donc la suivante. Il existe en nous un inconscient collectif qui est le fondement à l'imagination et commun à tous les peuples, à travers tous les âges, et qui se manifeste dans les religions, les mythes et les légendes. Les déesses et les dieux vont mettre en scène des énergies transmises par des histoires sous forme poétique et symbolique qui font appel à notre cerveau droit, permettant de porter un nouveau regard sur nos expériences, qu'elles aient été agréables ou désagréables, et contribuant au questionnement existentiel du sens de notre vie. Il s'agit donc d'un schéma intérieur, comme une disposition latente, présent dans l'inconscient et qui n'est pas issue de l'expérience personnelle. Il s'agit d'aspects de nous-mêmes qui nous apprennent à nous construire. Ce sont comme des graines que nous portons depuis la naissance, comme des potentiels. Alors certains vont germer dès le début de notre vie et d'autres se déploieront à un certain stade de vie, comme à l'adolescence, à la maternité, à un mariage, ou suite aussi à un traumatisme, des deuils, des ruptures. Ce sont donc nos ressources, nos qualités. Certaines vont peut-être aussi rester toute leur vie dans l'ombre si nous n'y mettons pas de terreau fertile. chaque divinité va raconter une histoire qui personnifie une quête. C'est un petit peu comme la quête du héros, ainsi que des qualités, des défis particuliers à chaque type de personnalité. Alors il y a donc 15 archétypes, 7 pour les femmes, 8 pour les hommes, qui vont permettre de porter un autre regard sur notre parcours et d'élargir notre vision. Par exemple, reconnaître l'archétype de son père ou reconnaître l'archétype de sa mère va être important pour comprendre comment on s'est construit, comment on s'est adapté par rapport à nos parents et par rapport à nos propres archétypes dominants. Ça va aussi nous permettre de mieux comprendre les personnes autour de nous qui nous agacent et qui nous plaisent, qui sont aussi extrêmement révélatrices de nos propres archétypes dans l'ombre ou dans la lumière. Alors nous sommes toutes et tous un savant et merveilleux mélange de ces dieux et ces déesses, et il est important de comprendre vraiment qu'un individu n'est pas composé d'un seul archétype et qu'il existe toute une subtilité de palette de teintes à chaque archétype en fonction de la façon dont il se mêle à l'intérieur de chacun et de chacune. Alors pour commencer, je vais vous présenter les déesses, on en compte 7. Il y a 3 déesses vierges, 3 déesses de la relation et une dernière qui est à part et qui les réunifie toutes. Les déesses vierges sont Artémis, Athéna et Hestia. Alors, il faut bien comprendre que le terme vierge ne fait pas référence à la virginité sexuelle, mais à la terre vierge, l'innocence de l'enfance, la pureté, quelque chose qui n'a jamais été dénaturé. Les déesses vierges, elles vont représenter l'image de la jeune fille, la jeune femme, et elles ne sont pas sous le joug de l'homme, c'est-à-dire que elles ont en commun leur indépendance, l'autonomie et une capacité très forte de focalisation. Ce sont des femmes qui sont mues par une énergie masculine, mais qui ne sont pas pour autant masculines. C'est-à-dire que c'est des femmes avec une grande énergie qui sont focalisées sur l'extérieur, à part Hestia qui est dans son monde intérieur. Donc ce sont des déesses qui sont loyales, engagées et chacune à leur niveau. Par exemple, Artémis, c'est celle qui va protéger la nature, c'est la guerrière des bois. Ensuite, on va avoir Athéna, ça c'est elle, c'est la guerrière des villes, c'est celle qui porte les qualités de connaissance et de savoir. Et ensuite Hestia, celle qui porte la spiritualité. Il faut savoir que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, qui étaient sous le joug de l'homme, incarnaient très peu ces archétypes, à part Hestia, et n'avaient aucun pouvoir de les exprimer. Et les deux déesses vierges, surtout Artémis et Athéna, elles ont émergé avec l'avènement du féminisme dans les années 70. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes incarnent les déesses vierges. Ensuite, on va rencontrer les déesses de la relation, ou dites les déesses vulnérables. Ces trois déesses personnifient des archétypes qui représentent les rôles traditionnels des femmes, c'est-à-dire épouse, mère et fille. Ce sont donc des déesses dont l'identité et le bien-être dépendent d'une relation. Dans la mythologie, ces trois déesses, elles ont été violées, enlevées, dominées et humiliées par les dieux masculins. Chacune a vécu l'impuissance et a réagi à sa manière. Héra, l'épouse, avec colère et jalousie, et Déméter et Perséphone par la dépression et le sacrifice. Alors les femmes chez qui ces déesses existent comme archétype dominant, elles ont l'attention portée sur les autres, à l'opposé des déesses vierges. On pourrait dire que, on retrouve très souvent les dépendantes affectives dans ces déesses-là. Et pour finir, on va trouver Aphrodite, qu'on appelle aussi l'alchimiste, c'est-à-dire qu'elle, elle n'appartient ni aux déesses vierges, ni aux déesses vulnérables, et elle contient toutes ses qualités des 6 autres déesses. Elle est désignée comme la déesse alchimique parce qu'elle, elle va contenir en elle la clé de la transformation, de la transmutation, car elle va en fait unir les opposés, elle va unir les dépendantes et les indépendantes. Alors nous sommes un savant mélange de toutes ces déesses, et bien les connaître va nous permettre d'en faire des alliés plutôt que des ennemis. Alors maintenant, on va aller voir les hommes, les 8 dieux. Pour accroître la connaissance de soi, un homme doit devenir conscient de l'influence de ses attitudes et de ses croyances et comprendre aussi comment le patriarcat l'a construit et comment le patriarcat peut le desservir également. Pour commencer, on va retrouver les archétypes du père. Il va y en avoir 3, Alors, le premier dieu va être Zeus, ensuite Poséidon et Hadès. Donc, ces trois dieux représentent trois aspects de l'archétype du père. Ces trois dieux partagent les mondes et chacun va gouverner son royaume. Alors, Zeus va représenter le ciel, le monde du pouvoir, du mental conscient, la volonté et la pensée. Zeus, c'est l'archétype qui va prédisposer les hommes à chercher et à utiliser le pouvoir. Ensuite, on a Poséidon qui va représenter la mer, qui représente également le monde des émotions et de l'instinct. Et souvent, le monde des émotions est réprimé chez des hommes beaucoup moins valorisés et parfois détachés de la conscience consciente. Alors le défi de Poséidon va être la maîtrise des émotions, de prendre du recul, de respecter les limites des autres et de calmer ses désirs immédiats pour sublimer ses pulsions. Après, on va rencontrer Hadès. Alors lui, on l'appelle aussi l'invisible, c'est le monde souterrain. Lui, c'est aussi complètement le monde de l'inconscient. On l'entrevoit dans nos rêves. Hadès, il va prédisposer les hommes à se connecter à leur monde intérieur, à leur inconscient. Et ce n'est pas tellement un archétype valorisé dans la société patriarcale. Ensuite, on va retrouver les cinq autres dieux. Donc, ce sont les cinq fils. Alors, le premier va être Apollon. Lui, c'est le dieu du soleil et c'est le frère jumeau d'Artémis. Dans la mythologie, c'est donc le préféré du père et lui, il ne souhaite pas le détrôner, mais il souhaite sa reconnaissance. Donc ça, ce sont les hommes qui incarnent les valeurs de stratège, d'harmonie et qui peuvent reprendre les entreprises de la famille. Ensuite, on va retrouver Hermès. Alors Hermès, c'est le dieu du vent. On le nomme aussi le protecteur des voyageurs, des businessmen. Lui, c'est le malin, l'espiègle. Et en général, ce sont des hommes qui savent se faire aimer, trouver des solutions à tous les problèmes. Et ils amènent aussi l'harmonie. Après, on va trouver Arès. Alors lui, c'est le dieu de la guerre. Lui, il représente l'image masculine de la puissance physique, intense et impulsif. Lui, c'est l'action immédiate, c'est le guerrier. Donc là, c'est intéressant d'aller retrouver comment Arès, les hommes peuvent le porter dans la lumière ou dans l'ombre. Alors après, on va avoir Héphaïstos. Alors Héphaïstos, il est très peu connu. Il ressemble un petit peu à Hadès, mais pas au même endroit. C'est-à-dire que lui, c'est le dieu des forgerons. Il habite dans sa forge et lui, il représente le génie créatif. C'est-à-dire que ce sont des hommes, en général, extrêmement manuels et pas très visible non plus. Et pour finir, on va avoir Dionysos. Alors Dionysos, lui, c'est le dieu le plus féminin. C'est aussi celui qui va le plus déranger. Lui, c'est un dieu qui est connecté au plaisir et au divin. Alors voilà une présentation très succincte des dieux et des déesses, en comprenant donc que chaque dieu porte un potentiel, porte des caractéristiques, des ombres et des lumières. Ce sont des aspects donc de nous, une palette de ces facettes, comme un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel, et qui vont chacune nous apporter une cartographie pour mieux se comprendre, mieux comprendre notre monde intérieur, nos compagnes, nos compagnons, nos parents, nos amis, bref, tout le monde extérieur et intérieur. Alors, la prochaine fois, nous allons commencer à les caricaturer en les séparant, pour ensuite finalement les réunifier et retrouver la coopération entre chacun d'eux pour co-créer plutôt que de lutter contre les besoins de chacun et de chacune. Merci de votre écoute et on va se retrouver très prochainement avec un prochain podcast sur l'enseignement des déesses vierges. Alors vous pouvez retrouver nos podcasts sur l'application Deezer et sinon vous inscrire pour recevoir la notification quand il y a un nouveau podcast qui sort. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now.
The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life. Such faith and trust. Oh, let the earth hold you. Take care.